Peut-être comprendrez-vous maintenant pourquoi la tendance sexuelle actuelle dans le monde provoque partout les situations les plus désastreuses. Pour que vous compreniez parfaitement ce dont je parle, je veux que vous vous efforciez de visualiser et de réaliser que la nature de la conscience divine de l'équilibre universel est puissance infinie, puisque l'équilibre harmonie naît de la contrainte égale entre les impulsions universelles, masculine et féminine, intelligence et amour, volonté de ressentir et volonté de consentir, désir d'agir et désir de retenir, maintenir le statu quo afin d'établir des liens et de la stabilité. Ces impulsions primitives de l'être, comme je l'ai expliqué lettre 4, sont la réalité qui donne vie, forme, structure et existence à toute chose visible. Cette dimension est un état de beauté, de joie, d'harmonie, de ravissement extatique, de révérence, d'intelligence, d'amour. Voilà ce dont la Terre peut faire la démonstration à une échelle qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Essayez de prendre pleinement conscience de la signification des deux paragraphes précédents. Le fait de les comprendre et de se les approprier changera radicalement votre façon de percevoir vos origines divines et l'existence elle-même. Dans ces paragraphes, je décris la nature et l'essence de la vie qui agissent dans le spermatozoïde et l'ovule lorsqu'ils s'unissent pour donner forme à un enfant. Voilà votre vérité. Votre réalité, votre âme, votre psyché, votre état d'être le plus profond. Instinctivement, vous en êtes conscient. Le bébé est la personnification de la joie. La joie qu'il exprime pendant qu'il développe sa conscience de ses relations et de son environnement surgit de la source profonde de la vie divine qui l'a fait se développer cellule par cellule, conformément aux instructions génétiques jusqu'à sa forme présente. Quelle est la différence entre l'âme et la psyché? Je vais maintenant l'expliquer. Vos psychologues humains la contesteront peut-être, mais elle n'en est pas moins la vérité. L'âme est la flamme divine, métaphore qui décrit l'essence de la vie divine, attirée dans l'être individuel au moment de la conception. La force de vie prend une forme individuelle et libère l'énergie de la force électrique d'activité ainsi que les impulsions magnétiques d'attraction-rejet pour s'engager dans la tâche complexe de construction du corps. De la sorte, vous avez au cœur de votre être, votre âme ou réalité divine qui est intelligence divine et amour divin, qui est aussi puissante impulsion divine de créer, croître, nourrir, éduquer, guérir, protéger, combler les besoins dans un système de loi et d'ordre parfait. Voilà la réalité qu'est votre âme. Lorsque vous aurez maîtrisé les impulsions de votre ego et invité l'âme à dominer vos pensées et vos sentiments, vous serez poussé à exprimer toutes les impulsions divines décrites ci-dessus. Vous serez possédé du désir de promouvoir uniquement le bien suprême de tout ce qui vit et de l'univers lui-même. Vous serez devenu un véritable messager de la conscience divine exprimant toutes ses qualités d'être. Jusqu'à ce moment de réunification de l'âme et de la conscience divine, la psyché occupe les recoins les plus reculés de votre conscience humaine et tire sa conscience de votre âme. C'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. L'ego, lui aussi, est formé au moment de la conception. Pendant que le bébé se développe, l'ego fait de même. Il est la fondation de votre personnalité humaine qui donne l'individualité. Il est l'énergie de votre conscience humaine. Il vous rend unique et distinct de tout autre être. Pour préserver votre individualité, l'ego doit vous protéger des attaques extérieures de tout genre et vous donner ce dont vous avez besoin pour prospérer, vous épanouir, croître et être heureux. Ceci est divinement décrété et ne doit pas être traité avec mépris. L'ego constitue un noyau de conscience de création, de développement et de croissance primordiale. Il est indispensable. L'ego est exclusivement gouverné par le courant électrique de la conscience d'activité, l'impulsion dynamique apparente en toute chose vivante, même dans les plantes qui se tournent et exposent leur feuillage au soleil, pour le capter de la meilleure manière possible. C'est là un mouvement conçu dans le champ électrique dynamique et dans le champ émotionnel d'attraction-désir dans la conscience de la plante afin qu'elle puisse croître et jouir de la chaleur du soleil. L'ego de toute chose vivante est le siège de la conscience terrestre uniquement. Il ne ressemble en aucune manière, ni de près ni de loin, à la réalité divine qui constitue l'âme. La pulsion de l'ego cherche exclusivement à obtenir ce qu'elle veut pour le bonheur de l'entité individuelle et pour la protéger des attaques afin d'assurer sa survie. Elle est prête à piétiner d'autres entités ou espèces pour atteindre son but. Elle appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force de l'ego est active en toute chose vivante, de la plus minuscule amibe au roi le plus puissant. La pulsion de l'ego pourrait s'appeler le protecteur et le dictateur de l'univers vivant. C'est sur ce point que la plupart des gens de votre monde actuel se fourvoient en évoquant la possibilité de l'existence d'un dieu. Ils observent les activités de diverses espèces menées par leur ego, les unes se nourrissant des autres pour subsister, et attribuent cette sauvagerie au Créateur. Comment le Créateur peut-il alors être un dieu d'amour? C'est là l'un des malentendus et l'une des croyances que j'aimerais balayer. Mon but est que tout le monde comprenne que la force de vie divine, qui inspire et respire à travers toute la création, se trouve au cœur même de l'univers tout entier et à l'origine de toute chose. C'est l'équilibre, caché mais puissant, duquel toutes choses ont tiré leur être, leur forme et leur structure. C'est l'espace des scientifiques dans lequel sont dirigés le mouvement et l'attraction des particules électriques. C'est la base de l'existence, à la fois impénétrable et à jamais inconnaissable, ainsi que la source cachée de toute substance de toute chose dans l'univers. L'ego est l'outil de la créativité divine, permettant de produire l'individualité à partir de l'unité de son être propre. Ce que je vais dire sera fortement contesté par vos scientifiques. Néanmoins, j'en appelle aux âmes, des êtres terrestres, dont l'intelligence est suffisamment évoluée pour en débattre et décider d'une ligne de conduite, même avec une compréhension partielle. Ces âmes qui réagissent intuitivement et intelligemment à ce qui se produit dans l'univers. Ces êtres de toutes les espèces les plus avancées sont les génies de leur race. Ne jugez pas au corps physique extérieur du développement intérieur d'aucune espèce, humaine ou autre. Toutes choses vivantes sont individualisées à partir de la même vie divine. Certaines psychés sont capables, grâce à leurs champs mentaux et émotionnels de plus en plus spiritualisés, de voir au-delà de l'ego et d'accomplir des actes de bonté et de sollicitude qui ne peuvent venir que des impulsions de l'âme tirées de la réalité divine. C'est pourquoi il faut accorder le plus grand respect et la plus grande considération à toutes les choses vivantes. Là où l'espèce a évolué au point de formuler des idées et des pensées claires qu'elle exprime en sons et en mots, et là où le développement spirituel de la psyché réussit à pénétrer la conscience de l'ego, la psyché commence à se poser des questions. La vie n'est-ce que cela? Quel est le but de notre vie? Etc. Lorsque cela se produit, l'âme incite la psyché à reconnaître le besoin urgent de se tourner vers sa source d'être, qu'instinctivement elle sait exister, être sa vraie demeure et son lieu de repos. Le désir caché mais permanent de l'âme, qui veut se réunir à sa source d'être, peut maintenant être ressenti par la psyché. S'il existe des personnes qui n'atteignent jamais ce développement vital au cours de leur vie, c'est parce que les processus mentaux et émotionnels de leur ego sont si puissamment tournés vers l'exercice de l'intelligence et de la raison que, lorsqu'on leur pose des questions telles que « Comment la vie a-t-elle commencé ? Dieu existe-t-il ? Comment un univers aussi merveilleux a-t-il été conçu et créé ? » L'ego de celui qui ne cherche pas et du non-croyant n'est conscient que de sa propre omnipotence. Il se met en tête de réfuter toute existence d'une dimension supérieure de laquelle la Terre aurait pu prendre forme. Il renie la voix de l'âme relayée par la psyché et, à chaque argument, il s'enfonce encore un peu plus dans les perceptions du monde matériel et visible qui représentent sa seule sécurité. L'âme reste alors emprisonnée dans les chaînes mentales et émotionnelles, électriques et magnétiques de l'ego. L'esprit humain reste convaincu que l'âme n'existe pas, que la dimension terrestre de l'existence et la force vitale physique sont les seules réalités. Si l'esprit de telle personne est déterminé à rejeter tout murmure inspiré par la psyché, l'âme, le corps souffre de maladies mineures, les relations seront tendues et la vie sera en général oppressante. Une maladie peut s'en suivre. Cela est dû au fait qu'une telle personne ne tire son énergie que des sources d'énergie limitées venant de la nourriture qu'elle met dans sa bouche. Cette énergie procède d'un processus chimique et non de la source de toute vie. Tout en tirant votre vie d'abord de la réalité divine qui vous a donné l'existence, vous tirez aussi votre énergie physique de votre nourriture et des processus digestifs. Il fabrique des enzymes pour transformer la nourriture en une forme utilisable qui nourrit les cellules physiques de tout votre corps et de votre esprit. Voilà quelle est la vie du corps. Beaucoup de gens vivent et meurent en puisant exclusivement dans l'énergie issue de leur processus physique. Le type et la quantité d'énergie puisées dans les processus physiques sont fortement influencés par les champs mentaux et électriques, émotionnels et magnétiques de l'être vivant. Les champs électriques et magnétiques qui entourent tout ce qui vit, depuis l'amibe jusqu'à l'éléphant et l'être humain, sont les rayonnements de force de vie qui appartiennent à l'âme en propre. Ils se combinent avec d'autres rayonnements émanant de l'être qui vit, ceux de sa conscience-connaissance, dont l'activité mentale et électrique est dynamique, ceux encore de ses pulsions émotionnelles et magnétiques, d'attraction-répulsion. Ces champs électromagnétiques sont profondément affectés par toutes les pensées et sentiments qui traversent l'esprit et les émotions de l'être. À leur tour, les champs affectent profondément les processus physiques du corps. Ils en améliorent ou détériorent la santé selon l'état de conscience de la personne qui est soit en harmonie avec les rayonnements de force de vie, de l'intelligence et amour divin, soit en conflit avec elle, du fait de pulsions issues de leur ego. Une entité malheureuse dépérit et meurt. Une entité heureuse s'épanouit. C'est là un fait fondamental de l'existence. En dernière analyse, chaque entité vivante se nourrit de son état intérieur de contentement ou de frustration. On peut constater la vérité de cette affirmation dans le développement physique et la conscience d'un bébé. Un enfant satisfait et heureux s'épanouit, rit facilement et rempli de joie. Le contact avec une mère aimante accroît son bien-être. Les rayonnements de contentement et d'amour de la mère vers l'enfant nourrissent les rayonnements de conscience du petit et augmentent à leur tour la force du petit corps. Pendant que l'enfant se développe, sa personnalité en évolution commence à colorer les rayonnements de son âme de force de conscience lumineuse ou sombre, laquelle renforce la santé de l'enfant ou au contraire la diminue. Une personne dotée d'un psychisme puissant peut voir les champs électromagnétiques s'affaiblir chez un individu ou un animal dont les champs d'énergie se sont réduits, bien que, à ce moment-là, ni l'individu ni l'animal ne donnent signe de mal-être physique. Il peut se passer un jour ou deux avant que le corps lui-même commence à manifester la diminution de l'énergie de conscience, sous une quelconque forme d'épuisement ou de maladie. Il y a sur Terre des gens qui ont développé des instruments permettant d'enregistrer ce phénomène, et dans les années à venir, ce sera une méthode reconnue de diagnostic et de traitement d'affection imminente. En outre, avec l'évolution de la technologie de la connaissance scientifico-spirituelle, l'état mental et émotionnel exact, responsable de l'épuisement physique, sera d'abord révélé sous hypnose et enregistré électroniquement en fréquence de vibration sur des écrans. Cela sera suivi d'une investigation électronique décrivant les fréquences vibratoires des diverses parties du corps sur des écrans similaires. Ce procédé impliquera des changements de couleur, car chaque schéma de conscience se manifeste d'abord aussi bien en fréquences vibratoires qu'en couleur. En comparant les fréquences vibratoires mentales et émotionnelles avec les fréquences vibratoires des parties du corps, on pourra localiser l'organe privé d'énergie ainsi que la cause mentale et émotionnelle. Les psychiatres ne fouilleront plus dans les expériences passées, investiguant, classifiant, produisant des rapports sur les origines ou causes probables des désordres mentaux, émotionnels ou physiques, fournissant ensuite des prescriptions intellectuelles pour les combattre. La vérité sur l'état spirituel de l'homme intérieur sera clairement révélée. Elle sera une base sûre pour les instructions spirituelles et le travail de méditation à faire qui permettront aux malades de recouvrer la santé, la vitalité, d'envisager de nouvelles perspectives, de nouveaux buts et d'accroître sa capacité d'amour inconditionnel. Naturellement, on n'utilisera plus de médicaments pour élever les rayonnements de conscience du patient, puisque c'est la diminution de vie divine, d'énergie de l'âme, qui est responsable de la maladie. On lui expliquera comment élever délibérément et systématiquement les fréquences de vibration de la partie du corps affectée et comment traiter les circonstances personnelles ayant causé le malaise psychologique et la diminution de l'énergie de l'âme. Le patient sera aussi considérablement aidé par l'influx d'énergie divine que lui transmettront les mains des gens qui sont de véritables canaux de pure vie spirituelle. Avec ces procédés de revitalisation, ces nouvelles perceptions et le contrôle des pulsions de l'ego, la condition physique s'améliorera rapidement, en quelques jours, sinon immédiatement. Cependant, en lisant ces lettres, vous pouvez commencer à effectuer votre propre guérison. Dans votre auto-traitement, ces instructions concernant la réalité divine qui donne l'existence seront prépondérantes, ainsi que la juste manière de vous y syntoniser et d'attirer la vie divine dans le processus de guérison. Lorsque vous commencez à puiser dans la vie de la réalité divine, au moyen de votre quête spirituelle, en posant des questions, en méditant, en lisant et en priant, vous éveillez peu à peu votre psyché, cloîtrée dans le rêve terrestre de l'ego. Vous attirez dans votre esprit et vos émotions la nature de la réalité divine elle-même. Tout ce qui traverse votre esprit et vos émotions se transmet au champ magnétique qui vous entoure. Ceci contribue à votre force. Lorsque vos champs magnétiques sont énergétisés par la puissance que vous tirez de la réalité divine, la puissance se retransmet alors dans votre corps physique en assainissant chacun de vos organes et en dissipant progressivement toute dysfonction. Il est vital que vous vous rappeliez ces processus du champ électromagnétique, parce que leur connaissance vous inspirera en même temps qu'elle vous encouragera à méditer et à vous mettre quotidiennement en syntonie avec la réalité divine. Si votre recherche et votre méditation sincère se focalisent bien sur la vérité de l'être, et non sur quelque forme de croyance religieuse terrestre, ou sur une spiritualité fausse et superficielle, ou encore sur quelque objet matériel dont vous croyez qu'il possède des pouvoirs, vous découvrirez que votre propre nature se transforme petit à petit et que vous commencez à prendre conscience des autres et de leurs besoins comme vous ne l'avez jamais fait. Votre empathie, votre compréhension, votre sollicitude, votre compassion, votre douceur augmentent. En fait, les qualités d'âme de la vie divine commencent maintenant à contrôler les impulsions naturelles de satisfaction et d'autodéfense de votre ego. Je vous avertis qu'à ce moment-là, vous aurez accédé à une période nouvelle et difficile, une époque de conflit entre la pulsion de l'ego, qui a pris pour habitude de satisfaire ses désirs, peut-être aux dépens de quelqu'un d'autre, et la psyché-âme, qui commence à prendre conscience que l'amour est la loi, et que les droits des autres doivent s'équilibrer avec ceux du moi, de l'ego. La psyché absorbant de plus en plus d'âme, de réalité divine dans sa conscience, la vieille pulsion de l'ego se met à relâcher son étreinte et le conflit intérieur quotidien s'intensifie encore. La psyché-âme, travaillant maintenant à travers l'esprit et le cœur, découvre qu'elle met en équilibre les besoins des autres contre la validité de ses propres besoins. Elle commence à se sentir accablée, et lasse de la lutte interne sans fin que lui causent les questions qu'elle se pose et son jugement sur elle-même. Lorsque la psyché atteint ce point de perception, cela indique que l'attraction de la conscience humaine s'est affinée à un point tel que l'âme est maintenant en train de se rapprocher de la divine réalité pour se réunifier à elle. L'âme reconnaît, par l'intermédiaire de la psyché, qu'elle aime l'amour divin ou réalité divine plus qu'elle n'aime quoi que ce soit de terrestre et qu'elle se languit du jour où elle sera complètement réunie à sa source d'être. La psyché finit par renoncer aux pulsions de l'ego au profit de la réalité divine et supplie d'avoir la force d'abandonner l'ego pour finalement mourir à sa personnalité. Ceci se produit lorsqu'on atteint vraiment le point culminant de sa vie spirituelle et l'on a généralement besoin d'un maître spirituel pour être guidé dans ce processus. Cette mort de la personnalité ne devrait jamais être entreprise comme moyen d'atteindre une plus grande intuition spirituelle. C'est éminemment dangereux et ne vous fera pas atteindre une vie spirituelle ou terrestre plus réussie. Elle sera très destructive pour la psyché et pour l'ego si elle a lieu trop tôt. Elle entravera tout le processus du développement de l'âme, psyché, ego, physique. Personne ne devrait entretenir une telle pensée dans le but d'être plus avancé en perception et en vérité spirituelle. Un tel acte de volonté sera contre-productif puisqu'il procède complètement de l'instinct de l'ego, afin d'être spirituellement plus important. Quand cette expérience de maîtrise de l'ego se produit au bon moment, de la juste manière, l'âme, par l'intermédiaire de la psyché, est dans une large mesure libre de communiquer directement avec la réalité divine, puisque le bavardage incessant de la conscience de l'ego cesse. L'attirance pour le monde n'est plus prépondérante. Les ambitions égocentriques disparaissent, le désir de possession personnelle se dissout. La paix règne dans l'esprit.